Campus Bordeaux.
Pour un doigt chaud,
Cappuccino.
Et tout de suite, on retrouve Justine. Justine qui nous parle de l'affaire Camailleux.
Et oui, sombre histoire pour Camailleux. On va parler reprise. À la une cette semaine, on retrouvait la reprise de Twitter par Elon Musk. Licenciement à l'appel, management harassant et liberté des fake news sont au programme. Alors cette affaire nous pose une autre question, celle de la reprise d'entreprise. Pourquoi reprendre et comment reprendre ? Loin de l'image de l'entrepreneur astucieux, fondant de toutes pièces sa start-up sortie de terre et immédiatement florissante, la reprise offre une toute autre image au nouveau patron, celle du sauveur. Et pourtant, l'actualité de la faillite de Camailleux en France nous a offert un exemple bien différent, celui de Michel Ohayon. Mais qui est-ce ? L'homme est à la tête de la FIB, la financière immobilière bordelaise, une entreprise bien de chez nous, qui est parvenue à racheter Camailleux pour 1 euro symbolique il y a 2 ans de cela. Aujourd'hui, la marque est à nouveau en faillite et cette chronique va vous montrer que Michel Ohayon n'en était pas à son coup d'essai.
Et comment Camailleux a-t-elle alors coulé ?
Ah, c'est la grande question que se posent même les employés de l'entreprise. Contexte. 2020, la marque est au plus mal. En redressement judiciaire au printemps, 2 projets sont examinés. 2 projets de reprise. Celui d'Ohayon est finalement choisi, alors perçu comme celui qui sauverait le plus d'emplois. Ironie du sort. 2022, l'entreprise est en redressement judiciaire, fait défaut de trésorerie, ne paye plus ses locaux ni ses marchandises, notons des impayés à hauteur de 69 millions d'euros, et accumule 250 millions d'euros de dettes en 2 ans. Elle avait pourtant été reprise avec un bilan de 0 dette, d'où le rachat à 1 euro. De 0 à 250 millions, la marge est belle et aujourd'hui, 511 magasins sont fermés, 2600 personnes au chômage. Les employés aussi se font liquider. À l'origine de cette catastrophe, une forme de fuite en avant. Dès le début, malgré un rachat qui paraissait astucieux, les banques ne faisaient pas confiance au projet. Michel Ohayon s'est entêté et s'est engagé à réellement investir dans Camailleux à hauteur de 57 millions d'euros. Millions qui devaient sortir de sa trésorerie, la FIB était déjà un gros groupe avant le rachat. Ces actes, en revanche, parce que c'est ça qui nous intéresse au fond, dévoilent un manque réel d'intention. Évidemment, l'entreprise n'était pas la plus rentable, mais ne jouons pas les surpris alors qu'elle venait d'être rachetée à hauteur d'un euro. Non, ce qui pose réellement question, ici, c'est la gestion des nouveaux propriétaires. Déjà, Camailleux n'était pas la propriété directe de la FIB, la marque était gérée par Hermione People and Brands, HPB pour les intimes, une filiale de la FIB qui s'occupe de nombreuses entreprises du groupe, parce que oui, on y reviendra, rassurez-vous, mais la FIB possède une myriade de jolis magasins, Gap, Go Sport et les Galeries Lafayette dans le lot. À la tête d'HPB, un homme de confiance pour Ohayon, Willem Hübner, ancien cadre chez Auchan, écarté ensuite de ce groupe et reconverti avec quelques proches dans ce secteur si particulier de l'habillement. Il n'y a pas de sous-métier pour Monsieur Hübner et il l'a bien compris. Notons aussi la reprise de Gap par Bérangère Hübner, épouse de Monsieur en 2021. Les affaires se font en famille. Les employés témoignent d'un délaissement et d'un management bancal lors de cette reprise. En somme, d'une responsabilité absente dans la gestion des gros sous de l'entreprise. Même la faillite a été gérée à l'envers. La cessation de paiement aurait dû être actée depuis 2021. Willem Hübner affirmait pourtant sans honte devant ses employés en juin dernier que l'entreprise n'était pas en cessation de paiement. Non, chers employés, invoquons la méthode Coé.
Cet échec de reprise est peut-être un accident de parcours.
Évidemment, mais encore faut-il voir quel parcours. Celui de Michel Ohayon impressionne comme un parfum de success story. Enfin, un peu moins success story si l'État lance, comme le tribunal de Lille l'envisage, une procédure judiciaire inspectant la gestion de ses entreprises. Tout d'un coup, Michel Pally, explication. Je passerai rapidement sur le portrait intime de l'homme. Vous avez eu le signe astrologique de Pouyanné la dernière fois, ça suffira. Le portrait financier... Par contre, là, ça intéresse. 104e fortune de France, selon le magazine Challenge. Le monsieur est un entrepreneur hors pair. Tout commence à Mériadec, non loin d'ici, où Michel Ohayon ouvre une boutique Daniel Echter. Parti de rien, inquiet de ne pas pouvoir payer son loyer dans le futur, une solution s'impose, devenir propriétaire. Logique. Et c'est une solution qu'il va étendre à plusieurs immeubles, voire plusieurs centaines, dans le but si altruiste de redynamiser des centres-villes. Quelle générosité ce Michel ! Tous les murs sont à lui et il peut y installer de jolis magasins qui lui paieront un loyer. Et ce n'est pas tout, Michel investit aussi dans les domaines viticoles et les hôtels de luxe, à Bordeaux pour le local, mais aussi à Versailles et même Jérusalem, on ne se refuse rien. Bon, une trajectoire classique d'homme d'affaires, sachant flairer le bon coup, me direz-vous. À cette image, elle se construit très soigneusement. Un banquier d'affaires confié l'année dernière au magazine Challenge, comme Michel Ohayon, est doté, je cite, d'une audace rare, d'une vision claire et respectable, il a un maximum d'atouts pour aller plus loin. Et il va plus loin, Michel, parce que sous cette façade de propriétaire, il a voulu investir dans les commerces qu'il hébergeait, mais pas de n'importe quelle manière. Et c'est ça qui est intéressant. Michel développe une stratégie astucieuse de rachat d'entreprises en faillite pour généralement un euro symbolique. C'était le cas pour Camailleux, mais aussi pour Gosport. Et ainsi, grappillant les cadavres et leur promettant une reprise efficace et généreuse, Ohayon construit un empire de plus de 1000 points de vente dans 750 villes en France, avec un léger chiffre d'affaires de tout de même 2 milliards d'euros. L'astuce de ces rachats, c'est qu'ils lui permettent d'obtenir des prêts garantis par l'État, des PGE, pour des entreprises en difficulté. Par exemple, le moment est notable, alors qu'il rachetait Gosport pour toujours 1 euro, la FIB obtient deux prêts garantis par l'État, de seulement 35 millions et 20 millions, petite somme. Mais l'astuce numéro 2, c'est que malgré l'attribution au nom de la marque Gosport, la FIB, par le biais de HPV, aurait transféré à peu près 15 millions vers Camailleux et 5 millions vers un de ses palaces, le Trianon Palace, qui avait lui-même été racheté par moitié pour endettement. L'information confiée à la journaliste Juliette Garnier par un connaisseur du dossier ne laisse pas indifférentes les autorités financières.
Et elles ont donc réagi.
N'abusons pas, mais il est vrai que le tribunal de Lille envisage des poursuites judiciaires ou du moins de mettre le nez dans ses financements à structure pyramidale, c'est-à-dire qu'on utilise l'argent d'une entreprise plus solide pour en financer une autre du même groupe, sauf que le tout ici se fait dans une instabilité totale. Mais Michel Ohayon s'est bien entouré. Hein. Son avocat qui l'encense dans les médias, monsieur Olivier Prado, a déjà défendu entre autres Bernard Tapie, le fameux, et non pas des moindres, Éric Zemmour, chacun son business. Les représentants CGT des employés de Camailleux soupçonnent fortement leur employeur et ont annoncé lancer des poursuites. Le problème, et certains le reconnaissent amèrement, c'est que se pencher sur les comptes d'un tel employeur risque de l'affaiblir et d'affaiblir par là tous ses employés, ce qui impliquerait une potentielle catastrophe sociale et une vague de destruction d'emplois. Rappelons pourtant que tenir en otage des milliers d'employés dans une gestion absolument pas durable et potentiellement frauduleuse de ces entreprises multiples ne durera pas. Camailleux en est la preuve, 2600 personnes peuvent en témoigner. L'aveuglement et le manque de prise en compte du sérieux de l'affaire par les dirigeants commerciaux interrogent. À la sortie du tribunal de commerce annonçant la liquidation de sa marque, Michel Ohayon a déclaré « On avait un job, on l'a fait ». Non, ils ne l'ont pas fait, mais les employés, eux, oui. Aujourd'hui, Camailleux n'est qu'une malheureuse tache sur le CV d'Ohayon, auréolé de toutes les victoires. Mais Camailleux, et pour d'autres, c'est toute une carrière, parfois des dizaines d'années, qui se finissent en lambeaux. Le mois dernier, Le Monde rapportait les mots d'une responsable de magasin, Roxane Carnero-Deneza. Le magasin se ferme, une dernière cliente fidèle approche, la travailleuse les larmes aux yeux lui explique « Ce n'est pas mon patron que je pleure, c'est vous madame ». En effet, ce n'est pas à Michel Ohayon que ces vendeuses diront « Merci patron ».
Campus Bordeaux.
88.1.
Et merci Justine de nous avoir expliqué un peu cette affaire Camailleux. On y voit un peu plus clair. C'est vrai qu'aux informations, je ne sais pas pour vous, mais on nous a juste parlé de liquidation judiciaire. On n'a pas vraiment dressé le portrait de cet homme de l'ombre à qui appartenait le magasin. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était un peu la fatalité, que Camailleux croulait sous les dettes, ça a fermé et c'était comme ça. Pour ma part, ça m'a fait un petit quelque chose quand même, parce que c'est vrai que quand j'étais ado, avec ma maman, des fois on faisait les boutiques, on passait par Camailleux, et je trouve que ça fait toujours un peu de peine de voir un magasin qui est un peu caractéristique dans le paysage français et qui ferme tout simplement, même si on n'était pas forcément consommateur, surtout que ça représentait énormément de magasins. Je sais pas ce que vous pensez de cette affaire, Jimmy Joris, si vous vous y êtes intéressé.
Moi, je trouve ça triste pour les régions rurales, pour les zones rurales, pardon, j'ai hésité entre les deux, d'où l'hésitation que ça a fait. Moi, je trouve ça dommage. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Périgueux, et par exemple, je me souviens de l'importance qu'avait Camailleux à Périgueux, et dans les petites villes aussi, à Saintes, par exemple. On y était avec ma copine pour la fermeture le dernier jour. Il y avait des gens qui faisaient la queue devant le magasin. Ça fait bizarre, c'est dommage en fait, parce que c'est un peu le commerce de proximité qui s'en va et ouais, à savoir par quoi ce sera remplacé, c'est dommage.
Et toi alors, Joris ?
Ben moi, j'étais comme toi, j'en savais pas plus en fait. C'est juste, comme tu disais, vite fait un flash info, Camailleux croule sous les dettes, ça ferme, bon, c'est triste. Du coup, c'est toujours intéressant de voir un peu les backstage, de voir qui gère un peu tout ça et ben, pourquoi ça arrive, quoi. Donc voilà, c'est intéressant de voir un peu tout ça. Merci, Justine.
Ouais, merci.
C'est pas la première fois hein, qu'une enseigne de grande ampleur met la clé sous la porte. Je pense à Tati aussi, par exemple. Ah oui. Et j'ai l'impression, je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vais en ville, qu'il y a de plus en plus de magasins qui ferment et qui ne rouvrent jamais. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de processus qui se met en place où vous allez dans le magasin et en fait, il y a de moins en moins de choses, d'articles qui sont disponibles sur place. Et maintenant, le truc, c'est d'aller voir en ligne. C'est de commander en ligne, d'aller récupérer son article, certes à la boutique, mais de l'avoir commandé ou réservé au préalable. Et j'ai l'impression que progressivement, on va vers une disparition de la disponibilité des articles sur place. Et que progressivement, du coup, bah, de plus en plus de magasins vont fermer. Je pense que Camailleux est le premier d'une longue série. Malheureusement, ça fait un peu peur. Je sais pas et je sais pas trop quoi en penser. Si c'est bien de faire son shopping en ligne ou de faire l'effort d'aller sur place. Moi, je sais que des fois, je me dis que il faudrait pas du tout regarder presque en ligne parce qu'en fait, on se crée des besoins et le fait d'aller sur place, bah, du coup, on fait que ce qui est avec bah, présent et que ce qui est réel entre guillemets, même si évidemment les articles existent quand on commande en ligne. Je sais pas si vous avez une opinion sur ça aussi, sur les magasins qui, j'ai l'impression, qui ferment de plus en plus et qui proposent de moins en moins de choix.
Bah juste c'est un peu d'ailleurs sur ça que Michel Ouaillon a un peu le même discours, mais justement lui il l'instrumentalise à son bénéfice parce que ce qu'il veut c'est redynamiser et réimplanter les magasins parce qu'il croit justement, justement il croit pas trop à tout ce qui est Amazon, la vente en ligne et il veut des personnes sur le terrain, mais en même temps on voit qu'il met pas vraiment d'attention, enfin Camailleux, je l'ai pas mis dans cette chronique, mais a été touché par une cyberattaque à un moment critique il y a un peu plus d'un an. Et la FIB a décidé de mettre ses équipes d'informaticiens sur l'entreprise Gap à ce moment-là, alors que Camailleux était en grande difficulté. Donc il y a aussi en fait un délaissement de la part des gestionnaires de ces entreprises qui participent à l'affaiblissement en fait des magasins sur place et aussi la pression qu'on met sur les vendeuses est assez importante parce qu'il faut toujours plus de bénéfices mais parfois moins de vendeuses. Donc ouais, c'est assez critique pour le commerce de proximité, comme tu disais. C'est vrai que Camailleux, on parlait de Châtellerault en off tout à l'heure. Et Châtellerault, je me rappelle, et donc c'est une petite ville dans le Poitou, petite, 60 000 habitants, est passée plusieurs fois aux infos régionales, voire même nationales, parce que, à cause de la désertification de son centre-ville. Et donc voilà, c'est vrai que ça pose question sur le commerce. En face-to-face, on va dire.
Et oui, justement, bah, Camailleux, ça devait être un magasin probablement du centre-ville là-bas. Ouais, moi, je vois Périgueux, c'est la même chose. Il n'y a plus de commerce dans le centre-ville de Périgueux quand j'y vais. Je trouve ça dommage. Ça ne ressemble pas du tout à ce que c'était quand j'étais petit. Donc, ça me fait bizarre et je me dis, mais qu'est-ce que ça va devenir ? Ça se trouve, il n'y aura vraiment plus de commerce.
Après, il n'y a pas une destruction totale d'emplois aussi. Il y a une fuite vers les grands centres commerciaux. Parfois, je prends l'exemple de la ville de Guéret, il y a des commerces qui étaient dans le centre-ville qui maintenant sont dans un centre commercial proche d'un grand Leclerc à la sortie de la ville. Et ça aussi, bah, c'est pour créer des ensembles commerciaux qui favorisent aussi une consommation plus importante parce qu'on va passer par tous les magasins et ça ne va pas être comme quand on pioche dans un petit... Enfin, pour caricaturer, qu'on pioche chez le boucher, chez le traiteur, dans un petit centre-ville.
Campus Bordeaux.